BFM TV, dimanche 4 novembre 2018.
La France, plutôt que l'indépendance, les Néo-Calédoniens se sont prononcés. À l'issue du référendum d'autodétermination, 56,4% des votants ont rejeté l'indépendance. Un résultat dont s'est félicité Emmanuel Macron.
Ils se sont exprimés, aujourd'hui, majoritairement pour que la Nouvelle-Calédonie reste française. Je dois d'abord dire l'immense fierté que nous ayons ensemble passé cette étape historique. Je veux aussi dire la fierté pour le chef de l'État que la majorité des Calédoniens ait choisi la France. C'est pour nous une marque de confiance dans la République française.
Emmanuel Macron avait beau plastronner en bon marketeur qu'il est, il ne pouvait ignorer que les résultats du référendum organisé en Nouvelle-Calédonie ne représentaient en aucun cas un succès pour la France. Alors qu'une grande partie de la droite locale avait clamé haut et fort que ce vote allait définitivement enterrer la revendication indépendantiste, le oui emportait ce jour-là plus de 43% des suffrages, un score bien supérieur à ce qu'annonçaient sondages et nombre d'observateurs. Non seulement sur cet archipel toujours possession française, bien que situé aux antipodes de chez nous, l'indépendantisme n'est pas mort, mais ce jour-là, les anti-indépendantistes de Nouvelle-Calédonie et l'État français comprenaient que le processus entamé il y a 20 ans avec les accords de Nouméa, et même il y a 30 ans si l'on remonte aux accords de Matignon-Oudinot, accords qui mettaient fin à des années de quasi-guerre civile, ce processus pouvait aboutir à court terme à la fin de plus de 160 ans d'occupation française. Peut-être dès 2020, lors du second des trois référendums possibles. Pendant une heure aujourd'hui, nous allons revenir sur la situation néo-calédonienne, si peu, si maltraitée par nos médias de masse. Peut-être parce que plus assez spectaculaire, peut-être aussi parce qu'il n'est jamais bon de rappeler au grand public que nous n'en avons pas fini, loin de là, avec notre histoire coloniale. Peut-être parce que la France garde toujours d'énormes intérêts, de toutes sortes, à conserver la riche Nouvelle-Calédonie dans son escarcelle, mais qu'elle a du mal à l'assumer devant son propre peuple. Puisque nous ne les avons, pour ainsi dire, pas entendus en métropole, la parole sera donnée ici aux indépendantistes. La plupart sont kanaks, c'est-à-dire issus du peuple premier de l'archipel, aujourd'hui minorisés sur ses propres terres par une agressive politique de peuplement. Ils restent néanmoins la première communauté du pays, près de 40% de la population locale, et sont bien sûr les grands porteurs de cette exigence d'indépendance. Mais nous entendrons aussi des membres d'autres communautés d'une Nouvelle-Calédonie aujourd'hui fortement multiculturelle. Avec elles et eux, nous allons parler d'une histoire qui ne nous est pas étrangère, qui ne doit pas nous être étrangère. Car à l'autre bout du monde, c'est bien le pays auquel nous appartenons qui poursuit sa sombre œuvre coloniale et entrave encore l'avènement d'une Kanaky libre. Nouvelle-Calédonie, après le référendum, avant le référendum, où en est la marche vers l'indépendance?
Alors le référendum du 4 novembre, tout le monde nous avait fait les pronostics, hein, donc pour le coup, on s'y était quand même tenu. Nous, on a continué de faire notre campagne électorale avec le projet de société qu'on portait pour le destin commun, pour tous les citoyens de ce pays, sans aucune distinction. Néanmoins, il est vrai qu'on avait bien à l'esprit les chiffres qu'on nous donnait. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, le résultat, il n'a quand même pas été celui que tout le monde attendait.
Hein. Nadège Wackenthaler-Fèvre, élue Unipalika, c'est-à-dire élue sur une liste d'ouverture du Parti de Libération Kanak, une des composantes du FLNKS qui fédère en Nouvelle-Calédonie les forces indépendantistes. Son statut est original, au moins à deux titres. Elle est la première femme à avoir intégré l'exécutif de la province Nord et elle est indépendantiste bien que blanche, calédonienne d'origine européenne, caldoche, comme on dit par ici.
Moi, personnellement, le lendemain des résultats, de voir que pour le coup, on était plus dans les 40% que les 20%, voire annoncés par tout le monde. Tout de suite, à mes collaborateurs ici et à mes collègues, ici à la présidence, quand je suis revenue, je leur ai dit, les premières interviews que vous ferez, c'est une victoire qu'il faut annoncer. C'est tout. Parce qu'on nous avait tellement laissé entendre que ce serait... Avec ce résultat-là, ça a changé aussi les mentalités. Ça montrait que c'était possible.
Le peuple kanak n'a pas, contrairement à ce que certains ont pensé, le peuple kanak est toujours convaincu que son avenir passe par la pleine souveraineté, par l'indépendance. Ça, c'est la première chose.
John Passa, sociologue, sociologue engagé, y compris sur le terrain, pour la cause kanak.
Donc la deuxième chose, c'est la mobilisation. C'est vrai qu'il y a une forte mobilisation. Notamment de la population jeune, qui s'est beaucoup investie, qui s'est beaucoup mobilisée, qui s'est déplacée, qui a fait des efforts qu'aucun n'y croyait. Donc c'est aussi la grande surprise de cette mobilisation-là de l'électorat jeune, notamment dans le monde indépendantiste.
Finalement, les clivages socio-économiques et ethniques, puisque les deux se conjuguent, et géographiques, puisque les trois se conjuguent, finalement, ça n'a pas tant bougé que ça. En tous les cas, les Kanaks restent à plus de 80% favorables. En tout cas, ils ont voté à plus de 80% pour l'indépendance.
Samuel Gorouna, économiste, maître de conférences et chercheur à l'Université de Nouvelle-Calédonie, une exception dans le monde kanak.
Alors que le pari de certains, c'était de dire que vu les progrès depuis 30 ans, les politiques de rééquilibrage en faveur de la population autochtone et ce qui a été comme discrimination positive, notamment dans certains programmes, pour essayer de faire intégrer les Kanaks dans des postes à responsabilité, dans les formations, etc., ça n'a pas altérer leur désir de souveraineté ou d'indépendance. Et pareil pour le développement, il y en a qui ont pensé qu'avec l'usine du Nord, il y aurait du coup, vu que les gens sont entrés dans le salariat, etc., et que du coup des progrès ont été faits d'un point de vue socio-économique, encore une fois, au final, la revendication d'indépendance reste très forte chez les Kanaks. Et donc le clivage ethnique reste très fort. Moi, je pense que ça, c'est plus personne ne nie aujourd'hui qu'on entend et on voit les déclarations des leaders politiques, notamment loyalistes. Ils le disent clairement, eux-mêmes l'admettent. Hein, plus de 80% des Kanaks ont voté oui. Et donc au final, il faut faire avec.
La frange non-indépendantiste, ils étaient sûrs, ils étaient persuadés qu'il y a une génération de Kanaks qui n'aspire plus à l'indépendance. Qui ne veulent plus de l'indépendance parce que les évolutions depuis les accords de Matignon et jusqu'aux accords de Nouméa ne peuvent faire que les Kanaks soient non seulement intégrés mais quasiment assimilés. La réalité de la vie en Calédonie, c'est qu'il n'y a rien de tout cela. C'est-à-dire les Kanaks continuent à être sur le bord de la route. On aura beau construire des usines, on a des usines, on a des choses, on a une évolution économique, mais dans les faits, ceux qui sont toujours derrière, ceux qui sont toujours les victimes de cette colonisation-là dure, soit de peuplement ou économique, c'est toujours les Kanaks. Les Kanaks continuent à être victimes malgré tout, malgré les avancées. Donc ça ne va pas changer radicalement le rapport de force. Et ça ne va pas changer le rapport entre les sociétés ici en Calédonie.
Il y a une partie de ceux qui ont voté oui, c'était pour une question de droit et de légitimité. C'est notre droit. Allons chercher notre droit. C'est pour une question de dignité. Les Kanaks, dans sa majeure partie, ont voté oui par rapport à ce droit, à cette question de dignité.
Aloysio Sacco, élu indépendantiste, il est le président du RDO, un parti wallisien membre du FLNKS. L'importante communauté wallisienne est traditionnellement ici rattachée à la droite anti-indépendantiste, mais M. Sacco fait partie de ceux qui essayent de faire bouger les lignes.
Il y a aussi l'autre parti. C'était, ils espéraient dans ce vote du oui, un changement, enfin, de modèle. Pour que les choses aillent mieux, pour que nous puissions nous-mêmes mettre en place notre modèle qui soit conforme à nos aspirations. Oui, une partie de ceux qui ont voté oui ont voté pour que ça change, pour mettre en place un nouveau modèle de société, pour une meilleure répartition, pour un mieux vivre. Pour vivre ensemble. On ne peut plus continuer comme ça. Ce modèle que nous vivons actuellement est à bout de souffle. Est à bout de souffle. Il n'arrive plus à répondre aux problèmes des Calédoniens, et notamment de sa jeunesse.
Plusieurs types là, sont venus là, l'année dernière là, pour le vote. Ils sont venus me poser la question, mais faudrait que les indépendantistes fassent le deuil de l'indépendance. Moi j'ai dit, mais les indépendantistes, ils vont faire le deuil de l'indépendance. Moi j'ai deux réponses. Le jour où ils auront l'indépendance, hein, ce sera le jour où ils vont faire le deuil de l'indépendance. Et puis deuxième, c'est le jour où les Calédoniens feront le deuil de la colonisation.
Emmanuel Tshibaou, fils du leader indépendantiste Jean-Marie Tshibaou, assassiné il y a 30 ans cette année, mais plus encore, directeur de l'ADCK, l'Agence de développement de la culture kanak.
Les transformations de mentalité, c'est ce qui met le plus de temps à changer, et puis c'est ce sur quoi il faut faire bouger les lignes aujourd'hui, je pense, hein, à mon avis. Mais on ne peut légitimement bouger les lignes que si on appréhende la question de déconstruire une mentalité qui est... construite, basée sur les fondements de la colonisation, en fait. C'est ça qui est le plus difficile, c'est qu'à partir du moment où, depuis près de 100 ans, enfin plus de 100, 150 ans, on dit que le soleil, il est vert, nous, on continue à croire que le soleil, il est vert, quoi. Ça veut dire qu'on n'est jamais capable, ça fait partie des choses qu'on entend.
Oui, ça a toujours été la vieille recette. Ça a toujours été la vieille recette des conservateurs locaux, c'est-à-dire de démontrer l'incapacité de ceci, l'incapacité des Kanaks à faire cela. C'est-à-dire, on a l'usine du Nord qui est là. L'usine du Nord, dont les Kanaks ont imaginé au départ, qui s'est traduit par l'actuel directeur général de la branche nickel SMSP, qui on est sur des investissements extérieurs, on est sur des usines offshore qui regardent le développement économique comme uniquement non plus basé en Calédonie, mais aussi avec la dynamique économique, tout le champ de la globalisation, comment à travers cette globalisation on arrive à tirer notre épingle du jeu avec la matière première, avec la richesse qu'on a, qu'est le nickel. Il y a tout. Les Kanaks ont prouvé depuis longtemps leur capacité. Tout le discours conservateur qui consiste à dire oui, mais on a peur de ceci, on a peur de cela, c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent. On est dans le sens premier du mot conservateur. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que ça change.
Alors la gestion par les Kanaks. Eh bien écoutez, on n'a pas à rougir de la gestion que l'on fait. Hein. Moi je vais citer que la province Nord. Eh bien la province Nord, c'est l'institution, la collectivité la mieux gérée de ce pays depuis 30 ans. Je veux dire, alors oui, ok, on est tous aujourd'hui dans la restriction budgétaire, dans des difficultés financières qui touchent tout le monde, mais aussi la France. Hein, et il nous faut faire des priorisations. Mais au titre du rééquilibrage, on avait une telle bonne santé financière qu'on s'est substitué à toutes les autres administrations pour pouvoir apporter à nos populations. Parce que le rééquilibrage, ce n'était pas de la fumisterie. Hein, je veux dire, moi, je vois en 30 ans, qui est toujours été d'ici, on a basculé, je veux dire, on a apporté à nos populations des écoles, des universités, des pôles médicaux, des ouvrages au-delà de ça. Mais ce rééquilibrage, il n'aurait pas été possible si la centralisation des pouvoirs était restée sur le Grand Nouméa. Hein. Et la province Nord que l'on représente par M. Jaurédier avant, pendant deux mandats, et depuis quatre mandats par M. Néaoutine, et ben la gestion que l'on en a faite... On n'a pas de honte à avoir et on n'a pas à en rougir. Au contraire, on est souvent cité en tant qu'exemple. Et la province Nord, c'est une province indépendantiste. Donc mes collègues du Congrès, ils n'ont pas à avoir peur d'une gestion par les Kanaks. Alors pour le coup, on se pose la question, s'il n'y a pas d'autre argumentaire que celui-là, c'est que peut-être il n'y en a pas du tout. Donc c'est aussi simple que ça. Moi, quand j'ai eu à échanger là-dessus avec des gens qui ne pensent pas comme moi, je leur ai dit, mais subitement, le 5 novembre au matin, on se serait réveillé, je veux dire, s'il y avait eu l'indépendance, c'était pas le chaos quand même, ce pays? Je veux dire, nous, cette paix, il y a des gens qui l'ont payée de leur vie. Je veux dire, on ne peut pas faire fi de tout ce qui s'est passé, de ceux qui nous ont précédés et qui nous ont tracé le chemin. Moi, je pense que le chemin, il est tracé. Il faut arrêter de faire peur. Nos camarades en face, moi, j'appelle ça des camarades, parce qu'après, on vit tous ensemble ici, quand même, et on travaille tous pour les mêmes objectifs, pour la population de ce pays. On ne perd pas ça de vue. Mais c'est vrai qu'ils ont agité sans cesse cela, l'épouvantail. Demain, il n'y aura pas. Moi, dans les réunions que l'on fait, c'était des questions récurrentes qui revenaient tout le temps parce que les gens n'entendaient que ça de la part de l'autre côté. Demain, il n'y aura plus d'aide médicale. Vous allez mourir de faim. Il n'y aura plus d'eau. Regardez l'électricité. Non, mais franchement, mais sérieusement, c'est pas correct. Alors, je pense qu'ils l'ont entendu, ça aussi. Et j'espère, moi, d'abord pour la sérénité dans ce pays, pour qu'on puisse imaginer pouvoir construire quelque chose tous ensemble, qu'ils vont changer de registre et de discours, parce que c'est pas responsable en plus comme comportement. Voilà, effectivement, c'est la peur du lendemain et c'est la sécurité, effectivement, financière qui inquiète beaucoup de gens ici.
Toutes les avancées du pays, c'est le Flemkais qui a fait avancer. Nous, nous sommes pour la construction d'une société, d'un pays. Nous avons plein d'imagination. Nous sommes... On invente des choses. Voilà. Et ils sont dans la résistance. On ne bouge pas. La seule référence pour eux, le seul soutien, le seul appui, la France est là. Pensez entre nous. Ils aiment plus la France que moi qui vous parle là. Ils ont profité de la France, oui, pour se remplir les poches. Ça, oui.
Les gens, ils veulent pas. Ils veulent pas qu'on change les règles du jeu. Ils veulent toujours s'enrichir plus en faisant le moins possible. Parce que c'est des gens qui n'ont rien produit politiquement. C'est des gens qui n'ont rien produit socialement. C'est des gens qui vont profiter des systèmes. Qui vont profiter des systèmes de monopole de marché. Ils vont profiter d'un certain nombre de systèmes pour pouvoir, dans des pratiques, pour pouvoir conserver leur place, leur statut, leur c'est pas des gens qui sont là pour proposer. Ils n'ont jamais rien proposé pour la Calédonie. Les grandes avancées, que ce soit bancaires, que ce soit fiscales, c'est le monde indépendantiste du temps de Thibault, c'est eux qui vont porter ça. Le monde non indépendantiste, ils ne vont rien porter. Ils vont, par contre, ils vont accaparer ces avancées-là. Ils vont récupérer. Ils vont en faire des éléments qui vont nourrir cette espèce de sclérose qui a toujours frappé la société, les dirigeants non indépendantistes. C'est des gens qui pensent pas pour la génération future. C'est pas des gens qui sont visionnaires en cela. C'est des gens qui pensent d'abord à eux. Comment moi je peux exister et puis après moi le déluge. On a aussi cette dynamique-là de pensée qui, enferme les gens dans des discours qui n'ont plus lieu d'être. On est dans des discours qui... stériles, qui n'apportent rien. Et c'est des gens qui n'apportent rien. C'est des gens qui sont plus à... Ils viennent plus pour prendre que de donner. On est dans cet état d'esprit-là. Et ça n'a pas changé depuis 160 ans.
Ils ont agité la peur. La peur de l'indépendance. Avec des clichés. La peur que les chaos. Que la France va partir, c'est le chaos. Aujourd'hui, le pays, au niveau du produit intérieur brut, c'est 1 000 milliards CFP. Et que dans ces 1 000 milliards, il y a simplement 160 milliards que la France apporte pour assumer les compétences dont elle a la responsabilité, à savoir la justice, la défense, l'ordre public, la monnaie et puis les relations extérieures. Donc, vous voyez, on a dit, la Calédonie, on ne peut rien faire. il y a d'énormes potentialités. On n'est pas des millions de personnes. C'est vrai que le marché, il est... Mais pour vivre heureux, on peut, avec ce que le pays produit, il y a suffisamment pour ceux qui sont là, qui vivent là.
Si on prend uniquement ces indicateurs-là, et je veux raisonner en nominal et en franc CFP malheureusement, si on prend le PIB de la Calédonie et le PIB par habitant de la Calédonie, on est dans l'outre-mer loin devant les départements ou territoires d'outre-mer, presque deux fois ceux de la Polynésie en PIB. Et si on prend le PIB par habitant, c'est même pire que en nominal. Hein. Donc on ne parle pas de l'impact des niveaux de prix. En Calédonie, c'est plus cher à 30% que dans la moyenne métropolitaine, dans l'Hexagone. Donc si on prend le PIB par habitant de la Calédonie, c'est supérieur à la moyenne des PIB par habitant de toutes les provinces de France, donc excepté l'Île-de-France. Le PIB par habitant de la Calédonie est comparable à celui de la Nouvelle-Zélande. Donc, ce qui est quand même assez impressionnant, et d'autant que la France, l'État, envoie en Calédonie 15%, voire 12%, si on prend en net, du PIB. Donc, ce n'est pas non plus, sans ces transferts-là, l'économie calédonienne. Bon, effectivement, le niveau de vie baisserait, mais ça ne baissera pas au niveau de la Polynésie, ni au niveau de Vanuatu, comme certains le prêche, etc., etc. Après, c'est pourquoi est-ce que c'est riche et est-ce que c'est riche pour tout le monde? Bon, évidemment que ça, ce sont des moyennes, et si on prend évidemment les différentes géographies ou couches sociales ou ethnies, etc., la répartition n'est absolument pas égalitaire. Et quand on prend les taux de chômage, par exemple, des populations, je vais donner quelques chiffres. Le taux de chômage des Kanaks en 2014, c'est 26%, et les Européens, c'est moins de 5%. Donc les Kanaks ont un taux de chômage 5 fois plus élevé que les Européens. Et les indices de ce type, on peut les dérouler. Hein.
Les indicateurs sociaux, à l'heure actuelle, ils marquent bien que la société Kanak ne se reconnaît pas dans les modèles qui lui sont de construction idéologique qui lui sont proposés. Échec scolaire. Ça veut dire que nos enfants, ils appréhendent l'école comme quelque chose qui est l'école encore aujourd'hui, peut-être que c'est trivial de le dire, mais de l'école des Blancs, parce que cette école fait d'eux des étrangers à leur référence. Quand on parle d'accès à l'emploi, les statistiques, elles montrent que ceux qui se retrouvent en marge du système économique, soit par l'emploi, soit par même des velléités de création d'entreprises, c'est encore les Kanaks. Kanaks et Océaniens, hein, parce que c'est pas juste... Mais nous, on est chez nous, les autres, ils peuvent dire qu'ils sont aussi mis sur le carreau, mais bon, nous ici, c'est plus difficile à accepter parce qu'on est chez nous, cette terre, elle nous appartient. C'est celle qui nous a vu naître, quoi, et puis sur laquelle les esprits de nos grands-pères ils se sont posés. Quoi. Accès à l'emploi, accès au diplôme, accès à l'habitat. On parle d'insécurité, on parle de conduite de la consommation des psychotropes addictives, du taux de suicide, les Kanaks. Les accidents de la route, les Kanaks. C'est le record national en France. Alors, je ne sais pas au niveau mondial, mais c'est bien le signe que la société, elle ne va pas bien. Et on parle d'insécurité, où on pointe toujours les Kanaks, encore une fois. On dit que c'est eux qui sont la cause des troubles, c'est la jeunesse Kanak en déshérence, c'est les rebuts de la société, que font les coutumiers. Mais voilà, c'est là où peut-être que le prisme par lequel on envisage ces symptômes, il est à transformer pour moi. Parce que Si on est contre l'école, si on ne trouve pas notre place dans la société, est-ce que cette société, elle correspond à nos valeurs? Est-ce que société, elle correspond à nos attentes? Si on parle d'insécurité, il faut aller en tribu. Moi, je dis à Tiedani, la sécurité, il n'y a pas, les maisons sont ouvertes. Parce qu'il y a un cadre qui est simple, qui est légitime, et puis de la cime des sapins jusqu'aux racines des banyans, la parole, elle est une, on sait où est notre place. On sait où sont nos références. Alors, ça, c'est bien pour la tribu. Mais je veux dire, quand on appelle au secours la société kanak, au secours les coutumiers pour leur dire, occupez-vous des jeunes, occupez-vous de... Les coutumiers, dites une parole pour les jeunes qui sont en désert. Mais la société kanak, elle n'est pas responsable de ce système qui nous est imposé.
Il y a des problèmes de délinquance partout maintenant. C'est-à-dire, l'autorité, comme partout, mais l'autorité, elle souffre énormément. Donc, l'alibi qui rend service à l'une ou l'autre société, c'est de dire non, mais c'est de la faute de l'autre. Parce qu'avec ces outils, tout ça, on ne peut plus réguler nos enfants. Et de l'autre côté, on va dire non, mais c'est la faute des autres parce qu'ils ne nous laissent pas faire. En fait, chacun se renvoie un peu les responsabilités. C'est tout ça qui rend difficile les réponses.
Regardez le problème de la délinquance. On va chercher les solutions en métropole. Et leur demander aux spécialistes de métropole, police et gendarmerie, comment vous avez traité le problème des beurs, des immigrants dans les quartiers populaires. La solution, elle est ici, entre nous. Mais qu'est-ce qu'on va chercher là-bas? Une autre des solutions par la droite locale, plus de gendarmes, plus de policiers. On va faire un pays comme ici. L'île la plus proche du paradis, disent les Japonais. On va militariser parce qu'on est incapable de répondre aux problèmes de la jeunesse.
Mais c'est aussi la pensée coloniale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est pas possible qu'on puisse produire des réponses. Il faut que les réponses viennent toujours de France. Sinon, c'est pas des bonnes réponses. Donc les gens restent aussi dans cette culture-là. De la dépendance psychologique en termes de réponse qui fait que les gens ils sont jamais en capacité de penser en dehors de la France et à partir de leur réalité. Parce que, mais comme ils ne vivent pas les mêmes réalités, c'est sûr qu'ils n'auront pas de réponse. Et souvent ils vont prendre des réponses qui en France ils ne la vivent pas non plus. Les gens qui arrivent ici, ils n'ont pas non plus des vies en banlieue. La majorité ne vit pas en banlieue ou dans les cités HLM. C'est pas le fait de la majorité.
Nouvelle-Calédonie, après le référendum, avant le référendum, où en est la marche vers l'indépendance?
Tous les mois, j'interviens là-bas au quartier des mineurs, au Coinst, ce qui est la prison de Nouméa, qui est située à une dizaine de kilomètres dans la ville de Nouméa, sur la presqu'île de Nouville.
Emmanuel Chibon.
Au quartier des mineurs, voilà, il y a 98% des jeunes qui sont des Kanaks. Et puis, j'interviens là-bas au titre du centre culturel Chibaou pour parler avec eux de l'identité Kanak. La place qu'ils occupent dans la coutume, on travaille sur ces notions d'identité, de bonjour, de se respecter, de partager, de savoir qui ils sont, de leur redonner une place. Et quand je dis 98%, c'est des Kanaks, mais sur l'ensemble du camp Est, c'est le nom de cette prison, il y a 95%, C'est le seul endroit où les Kanaks sont majoritaires, c'est là. C'est pas dans la représentation, dans les bureaux de vote. Hein.
C'est toujours le problème des colonisés, c'est-à-dire que c'est, s'ils sont minoritaires dans leur pays, ils sont majoritaires dans leur prison. Ça fonctionne comme ça.
John Passa.
Mais c'est la non-reconnaissance, c'est-à-dire c'est les effets de la non-reconnaissance. C'est-à-dire que par du moment où on veut continuer à donner à ce pays une image qui est une image artificielle, avec un regard qui est dans la négation permanente des enfants d'ici. Tiens, au bout d'un moment, le système, il finira toujours par le payer. C'est-à-dire, il va toujours finir par le payer par effectivement l'explosion de la délinquance, qui est une délinquance qui ne va plus concerner uniquement les Européens, qui va aussi, comme victime, hein, qui va aussi concerner les Kanaks. C'est-à-dire que la délinquance, si on parle de la jeunesse Kanak, elle est sur deux niveaux de lecture. C'est à la fois dans le statut d'exclu d'un système, j'allais dire actuel, colonial ou post-colonial, mais je pense plutôt colonial, de la Calédonie, et puis d'un système Kanak qui est aussi de plus en plus exigeant vis-à-vis de ses propres enfants. Donc, à partir de là, le phénomène il va produire des délinquants doublement exclus. Exclus à la fois du système européen, calédonien, européen, et puis du système canadien. Par le statut des personnes, par le statut des jeunes, par leur incapacité à avoir une place en tribu et tout ça. Donc on va avoir une convergence dans l'exclusion. Et qui va en faire des enfants qui n'ont plus rien à perdre. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre ? Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien. Si on a le critère européen, ben, ils n'ont rien. Et puis chez eux, ils n'ont pas la place. Ils n'ont pas leur place. Donc, où est-ce que vous voulez qu'ils s'installent ? Ben, dans la marge. Dans la marge des deux sociétés. Avec toutes les modalités qui concernent cette marge-là. À la fois des violences, mais aussi des attitudes. Suicidaires pour certains ou certaines. Donc oui, la jeunesse kanak, elle est mal en point, en tout cas une partie du moins, mais la réponse, elle est double. Elle est à la fois dans la société calédonienne globale et puis dans la société kanak. Comment la société kanak arrive à régler certaines contradictions propres à sa culture, mais que les autres en face ne s'en servent pas pour régler leur incohérence à eux. Mais c'est ce qui se passe en ce moment, c'est que souvent, ils préfèrent ne pas parler d'eux, mais pour parler des Kanaks. Ils sont dans la capacité de gérer leurs propres enfants. Non, il faut que chacun récupère sa part de responsabilité dans tout ça.
Voilà, beaucoup d'élus politiques, de responsables, mais aussi...
Samuel Gorouna.
Je pense que c'est une vision qu'on avait un peu tous, je pense, de façon générale, sur le fait que les jeunes sont beaucoup moins... sont beaucoup moins concernés parce qu'ils n'ont pas vécu les événements, parce que, etc. Beaucoup moins concernés par la chose politique, la question indépendance ou pas, etc. Et les élections, et ce référendum a fait mentir, effectivement... les propos qu'on avait sur le sujet. Alors, pourquoi ça, c'est plus compliqué à l'expliquer. Moi, je n'aurais pas d'explication, hein, de façon générale, je ne saurais pas trop l'expliquer. Par contre, une chose est sûre, c'est que les inégalités, elles persistent. Et ceux qui sont le plus touchés par le chômage, c'est les jeunes. Et je pense que la question sociale a mobilisé aussi les uns et les autres. C'est-à-dire que dans le discours des indépendantistes, il y avait aussi la question sociale. C'est-à-dire, grosso modo, l'indépendance est aussi un pays plus juste. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que certains qui en profitent. Et parmi le taux de chômage, là où on a le plus fort taux de chômage, ce sont les jeunes.
On ne s'y attendait pas parce qu'on a une jeunesse qui, justement, mais comme peut-être partout un peu ailleurs, n'est pas forcément là lors des élections.
Nadège Wackenthaler-Fèvre.
On a le sentiment, et ça a été dit par beaucoup de personnes, qu'ils ne se sentaient pas concernés par la chose, que ça ne les intéressait pas. Eh bien non. Voilà, on a eu la preuve du contraire. Donc, moi, je suis ravie de cette mobilisation-là, parce qu'il reste évident que dans ce pays en construction, c'est elle qui va porter, hein, les projets, le chemin que l'on trace, etc. Et elle est intéressée par ce qui se passe dans le pays. Et elle a voulu le montrer en allant massivement au vote. Et je crois qu'il y a une jeunesse kanak, notamment, et Caldoche aussi, qui s'est interrogée, qui s'est intéressée, alors qu'on ne s'y attendait pas, parce qu'on les a, dans le débat et dans la campagne électorale, qui a été rapide hein, néanmoins pour le référendum, si, ils se sont venus, ils sont venus quand même sur les plateaux, ils ont dit, mais pas plus que ça. Et ça, ça a été une grosse surprise, mais une très belle surprise, qui laisse augurer, pour le coup, quelque chose de très positif pour notre avenir dans ce pays.
Moi, je dis parce que je travaille avec eux. Donc, je sais que c'est y a quelque chose qu'on ne peut pas leur ôter. C'est cette dimension d'être d'ici. Et leur... C'est leur dernière carte, quoi. Le jour où ils ne pourront plus dire qu'ils sont kanak ou qu'ils sont d'ici, ils vont dire quoi? Ils seront réduits à néant, quoi. Leur identité, ce sera un magma difforme. Alors peut-être il faut passer par là, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de solution là-dessus, mais en tout cas, sur la mobilisation de la jeunesse, moi, j'étais complètement... convaincu que les jeunes, ils allaient se mobiliser parce que c'est comment on va dire ça, c'était leur jour, quoi. Il y a tous les autres jours, on leur donne pas la parole. Tous les autres jours, on ne les écoute pas. Tous les autres jours, on les stigmatise. Mais chez nous, dans notre manière de concevoir la construction de la société, c'est la force d'une société, c'est ses jeunes. C'est ses jeunes. Il faut avoir confiance dans sa jeunesse. Moi, je pense que c'est là notre plus grande... Notre vraie puissance, elle est là. Elle est dans cette capacité de régénérer les concepts, de s'émanciper des modèles. Si notre jeunesse, elle est capable de s'émanciper des modèles de domination, elle est capable de formuler de nouveaux concepts qui correspondent à leurs aspirations. Parce que si on se bat pour la société qui était celle de nos grands-pères et de nos arrière-grands-pères, ça veut dire qu'on n'a rien compris à la notion même de culture.
C'est pas les Blancs, c'est pas un pays des Blancs ici. C'est un pays où vivent une grande majorité des Océaniens.
Aloysio Sacco.
Les Kanaks, plus les 30% des Océaniens là, ben, on dépasse les 60%. Et donc, il faut mettre un modèle qui soit adapté à ces cultures. On ne peut pas faire ici un petit Paris ou une petite France. Alors que vous avez la majeure partie de la population, elle est océanienne. Mais c'est tout ça qu'il faut corriger. Quand tu entends, allez, il faut nous rassembler parce qu'il ne faut pas qu'un Kanak dirige. Il faut nous unir parce qu'il ne faut pas qu'un Kanak devienne député. Il faut unir nos voix parce qu'il ne faut pas qu'un Kanak devienne le président du Congrès. Mais attends. Pensez qu'à l'heure où on parle là, ces gens d'état d'esprit et porteurs d'espoir. Mais c'est porteurs de la haine, de la discrimination, du racisme. Mais ce n'est pas les Kanaks qui portent ça.
Rien n'a jamais été facilité ni donné aux Kanaks au nom d'un bon sentiment et au nom d'une humanité, reconnue, reconnaissante. Ça n'a jamais été le cas. C'est les Kanaks qui sont allés chercher tout ça. C'est les Kanaks qui sont allés chercher les accords de Matignon. C'est les Kanaks qui sont allés chercher les accords de Nouméa. C'est les Kanaks qui sont toujours à l'origine des bouleversements dans la Nouvelle-Calédonie. Et ce qui est dommage, c'est qu'on est obligé de passer par des révoltes, par des violences, pour pouvoir faire admettre qu'il y a une réalité et qu'il faut l'intégrer. C'est pour ça qu'on dit que l'idée de ceux qui ont toujours fait bouger le pays dans un sens ou dans l'autre, qui ont toujours fait bouger le pays, ça a toujours été les Kanaks. Mais un jeune, il me dira, mais c'est normal, c'est chez nous. Chez nous, il faut qu'on arrive à retrouver la place, à réoccuper la place qui nous revient. Donc ça passe forcément par des discussions, ça passe forcément par des débats. Mais c'est pas un pays où la discussion et les débats est quelque chose d'apaisé. Ça se passe toujours par des affrontements, par des confrontations, par des choses, par des violences, sur des points, sur des violences sur l'école, sur des violences dans la rue, par ces violences-là, qui rappellent les difficultés, qui rappellent le positionnement des uns, de la population européenne, qui continue à dénigrer. Et pas la population européenne qui sont les victimes de l'histoire, pas les caldoges. Une population européenne qui est arrivée ici il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que les gens, nous on est colonisés, et eux ils découvrent le statut de colon. C'est une grande découverte, le statut de colon. C'est-à-dire qu'on peut tout faire, on peut tout se permettre, parce qu'on est loin de la France. C'est-à-dire que la mentalité Jules Ferry, elle n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire que c'est une part d'inconscient des gens, quand ils arrivent ici, ça s'exprime. Les quelques personnes qui vont commencer à penser, poser l'altérité à leur faible niveau, au niveau de leur travail, quand ils vont commencer à se poser les questions de cette altérité, de leur construction d'enfants issus de milieux ouvriers ou issus de familles de la classe moyenne française qui viennent travailler ici parce que c'est des réseaux. Et quand ils découvrent le prix que ça leur coûte de devoir renier ce qu'ils sont au nom d'un vivre en Calédonie qui est de vivre dans quelque chose d'artificiel mais qui pulse, qui te renforce dans ce que tu es, il y a des jeunes qui arrêtent les frais parce qu'ils se disent non, je ne peux pas cautionner ça, c'est pas possible. En France, je ne me le serais pas permis. Des gens qui te disent ça et qui après ici disent mais c'est quand même bien. C'est cool.
Nous, on va pas se sauver d'ici. Nous, on ne va pas se sauver. On n'a pas d'autre endroit où aller. Peut-être les Français peuvent se sauver en Espagne, ou en Italie, ou en Suisse, ou si jamais il y a des gens qui vont habiter chez eux. Nous, on va mourir ici. Et puis je pense aussi, les Calédoniens qui habitent ici, ce pays, ils n'ont pas l'intention de se sauver. Le temps, il joue pour nous si on garde la foi que demain, ça peut être meilleur. Mais si on n'a pas confiance dans notre pays, si on n'a pas confiance dans les hommes, on ne peut pas sereinement se projeter. On pourrait aborder les mouvements de libération à l'époque des années 60 et 50, depuis Sékou Touré jusqu'à Bourguiba ou je sais pas les Égyptiens ou les Africains ou même en Amérique du Sud. Nous, on est arrivé, on est sur la fin de la comète. On est sur de ces indépendances-là. Et ce qui est, d'une certaine manière, je dirais que ça joue à notre avantage. C'est que les chemins par lesquels les autres mouvements de libération sont passés et ont traversé cette phase de reconnaissance, la création d'un État souverain, et puis après, les mécanismes de domination qu'ils ont perduré par des accords de coopération, par exemple, ce qu'a mis en place le système qu'on a nommé France-Afrique, de la France avec ses anciens pays colonisés. Nous, on a vu les travers de ces indépendances immédiates aussi. Et que la stratégie de se donner 10 ans pour former des cadres de 88 jusqu'à 98, c'était aussi de se dire, si la France est responsable de la colonisation, elle doit aussi avoir une responsabilité dans la décolonisation.
La France a toujours menti. La France nous a toujours trompés sur ses véritables intentions. La colonisation des peuplements, c'est bien la France. C'est pour mettre en minorité les Kanaks. C'est pour éviter que les Kanaks s'entendent avec les Océaniens et qu'ils puissent mettre la France dehors. Vous voyez, la France est attachée à ce pays. La France n'a pas envie de quitter la Nouvelle-Calédonie. À partir de là, tout ce qu'il fait, il n'y a rien de sincère. Tout est dans le calcul. Vous pensez que si la France n'avait pas envie de rester là, n'avait aucun intérêt, qu'est-ce qu'il va faire sans perdre son temps à un pays à 22 000 km? Voilà. La France n'a pas envie de partir. La France a des intérêts ici, géopolitiques. La France a besoin de la Nouvelle-Calédonie.
La France, je crois que c'est le troisième État qui a la plus grande superficie marine. Ce n'est pas à cause des côtes normandes, hein, c'est à cause des Outre-mer. Et la Polynésie et la Calédonie se partagent pratiquement la moitié du Pacifique. Et puis un taux de croissance qui dépasse celui de la France, c'est quand même le signe que la France a tout un intérêt de garder la Calédonie dans son giron. Donc c'est aussi en termes de rayonnement géostratégique des enjeux qui dépassent simplement le fait de reconnaître l'identité kanak. C'est aussi démonter tout un mécanisme de pensée qui est articulé autour de l'empire, je veux pas dire l'empire colonial français parce que c'est un peu désuet comme terme.
L'État, il ne doit pas se positionner en arbitre. L'État, il n'est pas un État colonial, n'est pas un État arbitre. C'est un État colonial, c'est un acteur, il fait partie. C'est en son nom que la Calédonie a été colonisée, c'est pas au nom des gens des populations européennes qui sont arrivées. Ils sont arrivés parce que c'est une colonie. Le problème de la réflexion politique en Calédonie, c'est qu'on inverse toujours. On est toujours en train d'embrouiller les relations entre les différentes personnes, entre les différents acteurs de la Nouvelle-Calédonie. Quand l'État dit qu'il faut discuter entre vous et puis nous, on est là pour arbitrer, c'est avoir le beau rôle.
Moi, j'ai toujours dit, il faut que la France affiche véritablement sa vision concernant la Nouvelle-Calédonie. Et on discute. Je veux rester ici pour telle raison. Voilà. Les Kanaks disent, je veux gouverner mon pays. Avec toi, on va redéfinir de nouveaux liens de partenariat. Et ça va être des liens librement consentis. Pas des liens dominants-dominés. Mais c'est ça que j'en veux à la France. Parce qu'il manque de sincérité. Comment on peut dire qu'on est au-dessus du lot? Alors que vous avez des présidents de la République qui disent « Ma préférence, c'est que la Calédonie soit française. » La neutralité, elle est où, là?
C'est Frantz Fanon qui disait qu'un État colonial n'a pas vocation à décoloniser. Ça saurait si la France avait su décoloniser. On ne serait pas là à perdre du temps. Si la France avait décolonisé, sans passer par les armes, on aurait la clé d'un certain nombre de choses. Mais là, la France, elle a toujours voulu, elle veut conserver, même si ça n'a plus de sens maintenant de conserver des entités en outre-mer, en tout cas pour la Calédonie, ça n'a plus de sens. Maintenant, on est dans des partenariats, on est dans des accords bilatéraux, on est dans des choses comme ça. On n'est plus dans un rapport qui est haut de domination. Et l'État, il teste. C'est-à-dire que l'État aurait bien aimé, même si elle ne le dit pas, quand elle a eu le résultat, le non l'a emporté, elle est contente, mais elle est aussi déçue comme les non-indépendantistes. Elle est déçue de ne pas avoir fait plus de non. Et ça, je pense que c'est aussi à l'État de reprendre la main, de dire, ben, je ne suis pas arbitre, je suis acteur. Donc c'est une discussion. Mais pour le moment, ce n'est pas comme ça que l'État voit sa position, elle se voit arbitre. C'est sûr que là, on n'avancera pas beaucoup.
Certains élus indépendantistes ont dit très clairement qu'ils ont dit au Premier ministre, mais Monsieur le Premier ministre, imaginez qu'il n'y avait pas de deuxième référendum. Qu'est-ce qui se passerait ce soir ? Effectivement, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Pour les uns, pour les autres, c'était un galop d'essai. Et puis voilà, c'est pas la souveraineté, ou en tout cas l'espoir de souveraineté pour la moitié de la population, puisque enfin, la population concernée, évidemment, c'est le corps électoral désigné. Pour quasiment la moitié, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui, effectivement, d'un point de vue des loyalistes, enfin loyalistes, je ne sais pas si le terme est approprié, mais en tout cas des non-indépendantistes, une partie des leaders ont dit clairement que le lendemain, il faut annuler tous les autres référendums parce que maintenant, c'est définitif, c'est dans la France, etc. Bon, je ne vais pas citer les noms. Et que du coup, le référendum en question va purger la question d'indépendance. Pour le terme, évidemment, très malheureux et pas approprié, etc. Mais pour certains, c'était ça.
Après, moi, j'ai envie de dire que de toute façon, c'était la parole donnée, ça. Trois référendums. Donc, il y a un respect de ce qui a été décidé par des personnes qui ne sont plus avec nous aussi. Il faut le faire, il faut y aller. Ça, c'était l'accord de Nouméa. Il faut aller à son terme. Et le terme, c'est deux autres référendums. Et l'indépendance, elle se construira à partir du moment où les gens l'auront voté. Moi, je pense que c'est inéluctable. Je pense qu'on y arrivera. Ça ne sera pas 2020, ça sera 2022. Ça sera après. Peu importe. La tendance inverse, elle ne peut plus s'amorcer. Maintenant, ce chiffre, il va aller en grandissant. Parce que je crois que la population calédonienne, aujourd'hui, peut-être que, je disais tout à l'heure, on a une opportunité, les gens comprennent mieux, ont moins peur, parce qu'on a essayé de dédiaboliser aussi. Et heureusement, il y a toutes ces démarches, la démarche unie, voyez, de laquelle je fais partie. Moi, j'ai eu à témoigner et à intervenir pendant la campagne électorale. Et il y a beaucoup de personnes qui... sont de droite plutôt, mais qui m'ont dit, nous, quand on t'entend, eh ben, on a envie d'y aller. Je veux dire, il faut qu'on arrête de se faire peur dans ce pays. Vous voyez, ce pays, il est magnifique. Il y fait bon vivre. Tout le monde y a sa place. Moi, j'en suis la preuve vivante. Hein. C'est le partage, le destin commun. Moi, j'ai toujours connu que ça. Je veux dire, on en parle aujourd'hui comme si que, on avait découvert quelque chose. Mais rien du tout. Nous, on a connu que ça. Moi, j'ai grandi dans le destin commun. Je veux dire, c'est notre vie à nous. Ça, on a été éduqués comme ça.
C'est un pays où vivent plusieurs communautés. C'est rare dans le monde que tu trouves des pays comme ça. C'est une richesse. Mais profitons-en de cette richesse pour construire un modèle où tout le monde se sente bien, que les Kanaks reprennent sa part à laquelle il a droit, à sa culture, à son identité, qu'on a gommé pendant de nombreuses années. Redonnons-lui ce dont il a droit, le peuple kanak. Quant aux autres, il a toute sa place qu'il faut. Il est aussi indispensable dans ce dispositif, dans ce peuple en construction. Comment peut-on imaginer aujourd'hui, à l'heure qu'on parle, qu'on peut se passer des Européens ? Ou qu'on peut se passer des Wallisiens. C'est pas possible. Tout le monde est indispensable. Et on a besoin de tout le monde dans cette construction du vivre ensemble et du nouveau pays. C'est ce que Jean-Marie Gibaou disait, le pari sur l'intelligence, c'est ça. C'est que les autres vont finir par comprendre que leurs intérêts, c'est là. Et ça commence. Et on est sur une courbe ascendante. Et ça va s'amplifier de plus en plus. Ainsi, on va gommer à tout jamais ce stress qui, périodiquement, chaque élection, nous clive indépendance contre l'indépendance. Il nous faut fermer cette parenthèse-là.
Pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de peur à avoir. Je pense que la peur est arrivée avec les résultats. C'est là où les gens... Parce que les gens se rendent bien compte aussi que tous les Kanaks n'ont pas voté. Et c'est là où ils réalisent que ça risque d'être chaud au deuxième référendum. Mais en même temps, les gens, ils n'ont pas eu l'intelligence de dire « Mais qu'est-ce qu'on peut proposer ?» Parce qu'ils ne proposent rien. C'est là, la difficulté. C'est là où ça génère de l'inquiétude. C'est-à-dire que tant que tu n'apportes pas de discussion, tu n'apportes pas de porte de sortie, tu n'apportes pas de réponse, tu n'apportes pas d'arguments pour essayer de crever l'abcès, tant que tu n'apportes pas, ça veut dire que pendant toutes ces années, tu n'étais pas là pour apporter. Tu étais là pour maintenir un statu quo en ta faveur. La déflagration du 4 novembre, les gens, ils ne se sont pas remis parce qu'on leur a rappelé, ils sont où ici? Et ça, les gens, ils n'ont pas réalisé. Ils pensaient que tout est acquis et que tout peut rester comme ça sans, et qu'on peut même en rajouter une couche. Ben, le 4 novembre leur a rappelé la réalité d'ici. Que vous profitez d'un système, vous vous retrouvez dans ce système-là, mais on vous rappelle quand même que ici, la Calédonie, c'est pas Nouméa. La Calédonie, c'est de l'île des Pins à Belep en passant par les Loyautés. Et si vous avez tendance à oublier parce que vous débarquez de temps ou temps pour aller à Nouméa, ben on va vous le rappeler. Que ce soit par les urnes ou que ce soit par des actes de violence. Donc ça pose réellement la question de comment on envisage l'avenir ici, comment on envisage les choses, comment on essaie de rendre passer par une reconnaissance réelle et non pas folklorique ou symbolique, ça permet de résoudre un certain nombre de choses. Mais ça, c'est pas au Canada de faire cet effort-là, c'est aux autres.
Même si les deux autres référendums sont perdus par les indépendantistes, donc évidemment ça se rapproche. Je pense que d'un point de vue de tendance, c'est plus un rapprochement qu'un écart plus important entre les deux. Mais ça, même après trois noms, si c'est deux autres noms, la question ne s'arrêtera pas là. Les indépendantistes ont dit le soir, quand ils avaient le Premier ministre, ils ont dit et répété, dans certains pays, il y a eu 6-7 référendums. Donc c'est pas, l'histoire ne prendra pas fin là. S'il y a plus de 80% de la population kanak qui continue d'être indépendantiste, c'est illusoire de penser que ça s'arrêtera là. C'est illusoire de penser que les indépendantistes vont arrêter d'être indépendantistes, et les kanaks en particulier, puisque ce sont les kanaks qui sont la très grosse majorité des indépendantistes, ce sont les kanaks. Ils sont plus de 80% à voter pour l'indépendance, ça ne s'arrêtera pas ni au deuxième ni au troisième référendum. Ça c'est sûr.
Si la France n'a pas été en capacité de se repenser là-bas, de refondre son projet de société, mais qu'elle nous laisse le droit de repenser, nous, notre projet de société ici avec les Calédoniens. Déjà qu'on nous laisse gérer notre petite île avec notre patrimoine minier, nos identités partagées, une école qui nous correspond, une nouvelle architecture, peut-être... des nouveaux plans d'urbanisme dans lesquels on se reconnaît. Là, le danger, c'est qu'on nous occulte ces velléités-là. Et c'est là où je dis que ce n'est pas faire preuve de grandeur et de maturité pour la France. Malgré ce que l'on peut dire, le fait que la Charte des Nations Unies, elle reconnaisse le droit des peuples autochtones à accéder à l'autodétermination, et que nous, on a ouvert ce droit aux victimes de l'histoire, enfin aux Calédoniens en 82, ben c'est ça le principe, c'est les principes de la coutume. Reconnais-moi pour que je te reconnaisse. Mais ce qui s'est passé en 82, c'est pourquoi il y a eu les événements, c'est que si tu ne me reconnais pas, j'irai par la force chercher ce droit. C'est ça qui s'est passé. En 86, 87, ça a été reconnu à l'ONU. La Calédonie est un pays colonisé et qui doit être décolonisé. Alors, c'est chaud quand même de décoloniser tout en restant sous la joug de l'État colonial. C'est ce que les Français pensent. Je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, mais c'est une nouvelle forme de... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça n'existe pas encore pour moi dans mon esprit. Peut-être que c'est quelque chose à inventer. C'est à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre décolonisation qui ne se soit fait qu'en dehors de l'État, en sortant de l'État colonial. Enfin, le propos même de la construction décolonisation, c'est qu'il y a des devant qui veut dire qu'on sort de la colonisation. Et si la colonisation est instaurée par l'État colonial, ça va. Ou bien il faut changer, il faut dire. On accède à la pleine souveraineté. Et après, nous, on se donne le choix de signer des partenariats avec la France et puis de dire ben, on aime bien quand vous nous fouettez, allez, on va vous racheter un nouveau fouet. Puis... c'est un peu maso comme concept de colonisation de la France.
Souverain et fier, Kanaki mon pays, Kanaki mon pays, Kanaki.
c'était Nouvelle-Calédonie, après le référendum, avant le référendum, où en est la marche vers l'indépendance. Avec Nadège Wakentaler-Fèvre, John Passa, Emmanuel Chibaou, Samuel Korouna, Aloisio Sakou. Ces entretiens ont été enregistrés entre janvier et mars 2019. Merci à toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de cette émission. N'oublions pas la Nouvelle-Calédonie. Là-bas se joue un combat anticolonial essentiel dans lequel nous avons un rôle à jouer.
Face au monde, face à l'histoire, ta souveraine liberté.
Souverain.